Alors, nous passons au point 3, le zonage pour le très haut débit. Où en est-on ? Michel Pratt.
Oui, moi je vais juste introduire le sujet. Alors c'est une information, mais en même temps, on aura à valider le périmètre qui va vous être présenté, hein, parce qu'il faut effectivement valider ce périmètre. Alors quelques rappels, et puis Thomas Renaud de Mégalis va aller plus loin et vous détailler les choses. Sur le territoire de Vitré, on a à peu près 30 000 locaux à fibrer en très haut débit. Il y a eu différentes phases sur ces approches. Il y a différentes phases sur ces approches très haut débit. Première phase qui va vous être rappelée aussi, mais qui globalement a duré de 2014 à 2018. C'est là où on a vu les montées en débit de certaines communes, hein, Le Pertre, Gênes et Saint-Christophe-des-Bois, si je ne me trompe pas. Durant cette phase, on a également eu 6% en fait de ces fameuses 30 000 locaux qui ont été fibrés en très haut débit. Donc là, c'est Drouge, Moussier, Ranet qui ont été concernés, Cornier, Vergéal, Domalin, je dois oublier quelqu'un, et Saint-Aubin-des-Landes. Merci. Donc, ils sont concernés par ce premier phasage de très haut débit, ces premiers locaux qui vont être fibrés en très haut débit. Donc c'est 6% en fait du total hein, des locaux. Et la deuxième phase va être entamée à partir de 2018, va concerner, en tout, on aura à l'issue de cette phase, en 2023, 44% des locaux qui vont être fibrés, donc 44% des locaux hors Vitré, puisque Vitré est un traitement à part, puisque c'est Orange sur ses fonds propres en fait, qui déploie le très haut débit à Vitré. Donc on aura 44% en 2023 du territoire donc hors Vitré qui sera couvert par du très haut débit. Ça veut dire que de 2023 à 2030, il nous restera encore 56% en fait, des locaux à couvrir. Donc vous allez avoir là la présentation en fait, des zones qui vont être concernées et surtout des critères qui ont permis de définir ces zones. Et en fait, au travers des différents critères qui ont été retenus, il s'avère que toutes les communes qui ont été retenues, ou toutes les zones, parce que ce n'est pas tout à fait des communes, on va vous le repréciser aussi tout à l'heure, en fait, ont été considérées comme prioritaires. C'est-à-dire que d'office, nos 10 547 locaux qui sont fibrés, qui seront fibrés sur, d'ici à 2023, on n'a pas eu le choix. En fait, ils ont été jugés prioritaires et choisis. Il y a quelques communautés d'agglos, de communes qui ont eu un petit peu de marge de manœuvre pour essayer de répartir certains locaux. Nous, ce n'est pas le cas. Vous verrez que de toute façon, les zones qui ont été choisies, c'était des zones effectivement qui étaient dans des situations de débit pas favorables. Il en restera, puisqu'il en reste quand même 56% à fibrer et tout, même certains points pas forcément très aidés, resteront à couvrir de 2023 à 2030. Donc vous ne serez pas tous satisfaits. Je suis désolée, mais effectivement, c'est comme ça. Et par contre, effectivement, ça nous permet d'atteindre les objectifs qui ont été donnés et par la région et par le département. Peut-être juste aussi pour compléter, où on en reparlera à la fin, le département s'est aussi engagé sur un certain nombre de solutions, on va dire entre guillemets palliatives, qui sont des solutions d'information, notamment pour les entreprises qui auraient besoin de très haut débit. Il va y avoir un système, enfin une espèce un guichet, un numéro voilà, auquel qu'elles pourront appeler pour avoir des informations sur le très haut débit et comment y parvenir. Et c'est vrai que pour les entreprises, c'est plus facile. Et pour les particuliers, en fait, qui n'auront pas la chance d'avoir tout de suite le très haut débit, en fait, c'est des ateliers qui vont être organisés par les opérateurs et qui vont les informer sur les solutions palliatives. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Je passe la main à Thomas Renaud qui va vous présenter les choses plus en détail, notamment les critères et bien entendu ce que vous attendez tous, c'est-à-dire la carte.
Merci madame. Alors oui, je me représente donc Thomas Renaud, directeur du projet Bretagne Très Haut Débit au sein des services de Mégalis Bretagne. Donc, je suis accompagné de Lydie Vincenot, ma collègue qui est référente territoriale pour les collectivités d'Ille-et-Vilaine notamment. Je vais aller assez rapidement à l'essentiel, même si je vais d'abord faire un petit rappel du projet pour ceux qui ne connaîtraient pas le projet Bretagne Très Haut Débit. Aussi vous montrer l'avancement de la première phase, même si Madame Prat en a déjà bien parlé, et vous présenter les cartographies de la phase 2. Alors, pourquoi faire un projet public de déploiement de réseaux en fibre optique ? L'objectif, c'est d'apporter un nouveau réseau de télécommunications beaucoup plus performant que celui qu'on connaît actuellement, qui est le réseau cuivre, qui nous permet de téléphoner, mais aussi d'avoir accès à Internet, mais qui a des problèmes puisqu'il est très sensible à la distance. Plus l'abonné est loin du central téléphonique, moins il a de débit, ce qui crée de fortes disparités sur les territoires pour les habitants ou les entreprises. La technologie fibre optique, qui est choisie massivement aussi par les opérateurs, pas uniquement par les collectivités, permettra d'apporter du très haut débit partout, même dans les coins les plus reculés de Bretagne et de France, et ça sans perte de débit, et donc avec les mêmes qualités de service pour tout le monde. Et donc c'est un vrai projet d'aménagement du territoire. C'est une technologie donc, qui n'a pas de problématique de débit, comme je l'ai dit, par rapport à la distance, et qui n'est pas partagée également comme peut l'être les réseaux hertziens de téléphonie mobile ou de WiMAX ou de Wi-Fi, où plus on est nombreux, moins on a de débit. Et donc à terme, ce réseau en fibre optique remplacera définitivement le réseau téléphonique cuivre. Alors, le projet public qui a été mis en place depuis 2013, repose en fait, vient d'une volonté politique, régionale, départementale et intercommunale, de venir compléter l'investissement privé. Il ne s'agit pas d'aller là où les opérateurs vont, mais bien de déployer là où ils ne vont pas. Donc si on regarde en Bretagne, les grandes agglomérations, effectivement, sont plutôt aujourd'hui captées par le marché privé. On a aussi certaines communes comme Vitré, par exemple, qui fait l'objet d'investissements privés, comme c'était rappelé, mais le reste du territoire, qui est quand même qui représente plus de 60% des Bretons, 90% du territoire, n'est pas ciblé par cet investissement privé. D'où le projet public Bretagne Très Haut Débit, mais qui, du coup, a pour objectif de déployer sur environ 1 200 000 lignes la fibre optique, avec bien évidemment un phasage dans le temps, vu la complexité et le chantier industriel que ça représente. Une première phase, comme ça a été rappelé, qui s'étale jusqu'en 2018. Une deuxième phase dont on va parler en termes de cartographie tout à l'heure, et une troisième qui nous amènera pour le dernier, je dirais, des locales à raccorder en 2030. Au niveau du projet, ce projet a été confié à un outil de mutualisation qui s'appelle Mégalis, donc qui est un syndicat mixte, donc une collectivité, un regroupement de collectivités qui est composé de la région, des 4 départements et de l'ensemble des communautés de communes de Bretagne, donc avec un principe de déploiement d'aller sur des villes moyennes et également sur des zones rurales à même intensité. Donc vous verrez que l'objectif, c'est de couvrir en priorité aussi les zones à plus faible débit, ce qui est assez différent des stratégies d'opérateurs, mais également aussi une notion de péréquation financière entre les territoires, avec un fort investissement de la région et des départements et un investissement important également des communautés de communes, mais identique, quelle que soit la communauté de communes, quelle que soit sa densité, pour ne pas pénaliser les territoires les plus ruraux, ceux qui ont le plus de longueur à faire en termes de déploiement. Une participation forfaitaire des EPCI à 445 euros. Les autres financeurs, qu'on voit sur les barres bleues à droite, apportant le complément de financement pour assurer la péréquation. Alors le projet, il a été confié à Mégalis, et Mégalis Bretagne est maître d'ouvrage. Concrètement, c'est nous qui passons les appels d'offres, de travaux, de maîtrise d'œuvre pour construire le réseau. On a retenu aussi, via une procédure d'appel d'offres, une entreprise privée qui s'appelle THD Bretagne, qui est une filiale d'Orange, qui va maintenir le réseau et le commercialiser. Puisque, bien évidemment, ce ne sont pas les collectivités qui apportent les abonnements directement, ce sont les opérateurs, Orange, Free, SFR, que vous connaissez, ou Bouygues. Et nous, on ne peut pas proposer d'abonnement directement. Donc c'est cette entreprise, THG Bretagne, qui fera l'intermédiaire commercial avec ses opérateurs qui eux-mêmes vendront les abonnements auprès des particuliers et des entreprises. C'est important puisque, du coup, cette entreprise, THG Bretagne, nous garantit également, l'objectif, ce n'est pas uniquement de construire le réseau, mais c'est qu'il y ait un service dessus. Et ça serait un peu embêtant qu'il y ait un investissement fort des collectivités, mais que finalement, il n'y ait pas de possibilité d'abonnement. Donc cette exploitation, ce contrat nous garantit qu'au moins un opérateur national commercialisera notre réseau, et ce qui est le cas d'ores et déjà. En même temps, la contrepartie, c'est que cet opérateur, cet exploitant, a lui-même des critères de choix, de priorisation de déploiement qu'il faut qu'on intègre. Alors, où on en est aujourd'hui, notre première phase? Alors, j'ai zoomé sur l'Ille-et-Vilaine pour y voir un petit peu plus clair. On a déjà réalisé dans le département donc des opérations de montée en débit, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Je ferai un zoom sur Vitré Communauté. Donc, les opérations de montée en débit, c'est on déploie de la fibre optique, mais on ne va pas jusqu'au bout. On s'arrête dans le centre du village, hein, pour simplifier, ce qui permet d'améliorer l'existant, mais permet pas, enfin, n'apporte pas la fibre jusqu'au domicile. Et du coup, bah, ceux qui sont encore loin du centre-bourg bah, ont parfois encore des débits un peu trop faibles. Mais ça permet, en tout cas, dans certaines situations, d'apporter une solution plus satisfaisante. Donc ça, ça a été fait en Ille-et-Vilaine pour 12 000 foyers déjà. Et il y a des travaux en cours pour accorder 45 000 locaux en fibre optique à l'horizon 2018. On a déjà un certain nombre de territoires qui sont raccordables avec des abonnés d'ores et déjà en Ille-et-Vilaine. À terme, il y aura environ 93% des habitants d'Ille-et-Vilaine qui auront un accès à plus de 4 mégas à l'horizon 2018 contre 80% aujourd'hui. Enfin, on va voir que ça ira, bien sûr, en s'accroissant. En zoomant sur Vitré Communauté, on a donc 1200 foyers, entreprises, qui ont vu leur débit amélioré, donc comme ça a été rappelé sur Vissège, Gênes, Le Pertre et Saint-Christophe-des-Bois. Et il y a 3 zones de déploiement en cours, de fibre optique cette fois-ci jusqu'au domicile, qui représentent environ 3070 locaux, sur Cornillé, Saint-Thomas-des-Landes, Vergéal, Domalin, Mousset, Drouge, Irané. Les travaux vont commencer là, dans les semaines et les mois qui viennent, avec les premières implantations d'armoires. Et après, il y aura toute la distribution de câbles qui prend des mois et des mois, donc qui permettra au fur et à mesure de rendre raccordables les habitants de ces secteurs qui sont aujourd'hui fortement concernés par des problèmes de débit. Alors, j'ai fait un petit zoom sur le nord, parce que comme le territoire est très allongé sur le nord et sur le sud, pour que vous y voyez plus clair. Je ferai le même zoom tout à l'heure sur les zones de la phase 2. Alors justement, cette phase 2, à l'échelle régionale, donc elle va commencer, les appels d'offres seront lancés en 2018, donc les premières études et travaux en 2019 pour aller jusqu'en 2023, concerne 400 000 locaux, c'est-à-dire quasiment deux fois la première phase. Donc on va considérablement augmenter le déploiement pour apporter le service de plus en plus vite. La première phase nous aura permis de roder un petit peu les processus, et là on va monter en puissance. Le nombre de lignes des 400 000 locaux a été réparti en fonction du reste à faire à l'échelon des départements. Alors en Ille-et-Vilaine, c'est vrai qu'il y a des grandes agglomérations et donc le reste à faire public est plus faible que dans d'autres territoires, et ce qui donne environ 85 000, 86 000 locaux à déployer en phase 2 pour l'Ille-et-Vilaine. Alors comme je le disais tout à l'heure, notre délégataire, donc l'exploitant de notre réseau, celui qui le commercialise, il a un plan d'affaires à respecter pour équilibrer les comptes de son entreprise, de la délégation de services publics. Et donc, il y a un certain nombre de critères à respecter dans le choix des zones. Je vais prendre une image pour vous expliquer. Si jamais demain, on décidait de faire uniquement les zones littorales, là où il y a le plus de résidences secondaires, eh bien, les opérateurs ont beaucoup de mal à commercialiser, puisque les gens qui viennent là qu'un mois l'été ne prennent pas d'abonnement fixe à l'année. Donc, bien évidemment, notre délégataire, lui, il va avoir des critères qui vont tenir compte à la fois de l'appétence, donc là où les gens seraient prêts à passer à la fibre optique. Alors on prend par exemple des familles avec enfants, etc., enfin, qui peuvent avoir des besoins importants en termes d'usage. Aussi l'intensité concurrentielle, bah, plus il y a d'opérateurs présents, bah, plus il y a une dynamique de marché et plus c'est intéressant d'apporter un nouveau réseau pour que les opérateurs se positionnent dessus. Et bien évidemment l'éligibilité au sens débit actuel, c'est-à-dire que moins il y a de débit, plus évidemment les gens seront à même de passer à une autre technologie, même s'ils payent quelques euros de plus parfois. Donc tous ces critères-là en fait ont permis de faire un score des différentes communes de Bretagne et qui ont ensuite été plaquées sur des zonages techniques. Comme ça a été dit tout à l'heure, les zones qui seront retenues, ce ne sont pas les limites communales, puisque les réseaux qu'on réutilise massivement ne suivent pas les limites administratives. J'ai pris un exemple. Vous voyez sur la carte, on voit des réseaux. Alors en bleu, c'est les réseaux aériens. En orange, c'est les réseaux souterrains, donc là où le réseau téléphonique est enterré. Et puis on voit en rouge, marron, c'est les réseaux qui sont en pleine terre, où il n'y a pas de fourreau dans lequel les câbles sont passés. Donc on voit bien que ces réseaux téléphoniques, ces supports qu'on va réutiliser massivement pour déployer la fibre, ne suivent pas les limites administratives. Et donc on va forcément avoir un découpage technique qui ne suivra pas non plus ses limites. Alors, les principes de territorialisation de la phase 2, tels qu'ils sont aussi portés par le département qui, dans le cadre de Mégalis, est responsable de la programmation de cette phase 2. Donc, sur la phase 1, il y avait 45 000 locaux, environ 20% en Ille-et-Vilaine, 30%, donc une augmentation en phase 2, et il restera environ 50% à faire en phase 3. L'objectif du département, c'est que 85% des habitants soient connectés au très haut débit via la fibre optique à l'horizon 2023. Donc, y compris les zones où il y a des opérateurs privés, hein, et bien sûr 100% à l'horizon 2030. Donc, comme je le disais, la présence de la délégation de services publics de notre délégataire qui impose de prendre en compte ces contraintes, hein, pour assurer d'une part l'équilibre économique de la DSP, mais aussi qu'un opérateur sera bien présent sur le réseau. Et puis, bah, c'est un enjeu fort, cet aménagement numérique, ce choix de zone, puisque autant en 2012-2013, quand on a commencé le projet, il y avait une pression moins forte, je dirais, des citoyens ou des élus sur ce sujet d'aménagement numérique. Aujourd'hui, ça devient vraiment vital. Et donc, c'est un enjeu très fort d'avancer rapidement. Alors, les critères qui ont été positionnés par le département, c'est qu'ils souhaitent vérifier que, à l'issue de cette phase 2, au moins 95% des habitants aient plus de 3 mégas, hein, ce qu'ils considèrent que c'est le minimum vital aujourd'hui. 80% des locaux au moins 8 mégas et plus de 60% 30 mégas. 30 mégas, c'est la définition européenne du très haut débit, même si la fibre optique permet d'apporter beaucoup plus, hein, puisque les abonnements de base, c'est au moins 100 à 200 mégas. L'objectif aussi pour le département, c'est qu'au moins 40% des locaux de la communauté de communes soient fibrés pour que la phase 3 ne concentre pas tous les investissements à réaliser par les collectivités. Alors, et ces critères, l'idée, bah, c'est de voir s'ils respectent bien les critères de compatibilité avec notre délégataire, et puis aussi l'équilibre entre les zones rurales, les zones plus urbaines, et que bah, tous les choix qui seront faits en Ille-et-Vilaine soient bien étalés sur l'ensemble des communautés de communes pour qu'elles soient toutes concernées. Alors ensuite, j'ai quelques graphiques qui permettent de comparer les territoires sur la situation actuelle et puis la cible. Donc il y a toutes les EPCI d'Ille-et-Vilaine. Alors je précise, hors les zones privées, hein, sur Rennes-Métropole, c'est uniquement les communes qui ne sont pas en zone privée. Sur Vitré Communauté, c'est hors la ville de Vitré. Et donc on voit aujourd'hui typiquement que sur la Vitré Communauté, on a environ 87% des habitants qui ont plus de 3 mégas. Et donc on a encore un effort à faire pour arriver à 95%. De la même manière, sur le 8 mégas, où on a environ 75%, 77%, donc l'objectif étant d'atteindre 80% à l'issue de la phase 2. Sur le 30 mégas, on voit qu'il y a encore plus de distance, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que 37-38% des habitants qui ont 30 mégas, et donc la phase 2 permettra d'aller au moins jusqu'à 60%. Alors justement, dernier critère, pardon, l'objectif, c'est qu'il y a au moins 40% des locaux fibrés dans chaque intercommunalité à l'issue de la phase 2. Aujourd'hui, sur Vitré, on sera sur la partie publique à 7-8%, et à l'issue de la phase 2, d'arriver à plus de 40%. Alors concrètement, en termes de volumétrie sur l'EPCI, il y a sur la partie publique, donc hors commune de Vitré, il y a un petit peu moins de 30 000 locaux à déployer au total. Il y en a 2686 qui seront réalisés en phase 1, et il y en aura 10 537 sur la phase 2. L'ensemble de ces locaux ont été prédéfinis, préfléchés, prélocalisés par notre délégataire. Et ce qui donne en termes d'objectifs, alors le graphique est un peu compliqué, mais on a en bleu ciel, donc à gauche, la barre de gauche avant, en bleu plus clair avec les pointillés après la phase 2. Et on peut comparer comme ça que les lignes rouges sont bien dépassées pour chaque objectif. C'est-à-dire, par exemple, que sur le plus de 30 mégas, 67% des habitants de la communauté commune auront plus de 30 mégas. Et 44% des locaux, hein, parce que je parle de local à chaque fois, puisqu'on parle de bâtiment, que ce soit une mairie, une entreprise ou un habitant. Donc 44% des locaux de l'intercommunalité seront fibrés à l'issue de la phase 2. Voilà pour les grands principes et les chiffres. Maintenant, je n'ai plus que les cartes à vous montrer pour finir. Alors, bien sûr, alors juste pour les couleurs, en gris foncé, donc c'est la commune de Vitré, voilà, au centre, vous allez retrouver en rose les secteurs qui ont fait l'objet de montées en débit, ça déjà, c'est déjà passé. En gris clair, vous allez retrouver les zones qui sont en cours de déploiement de la phase 1. Et en couleur orange, vous allez trouver les communes, enfin les secteurs qui sont inscrits pour la phase 2 du projet. Et en jaune, du coup, les secteurs qui sont réalisés en phase 3 du projet. Avec le rose, puisque ce que je n'ai pas dit, c'est que bien évidemment, même ceux qui ont bénéficié d'une montée en débit passeront à la fibre optique à terme, mais en phase 3, puisque comme ils ont déjà eu des débits améliorés. Alors j'ai fait un zoom sur le nord pour que vous y voyez un peu plus clair. Je peux même zoomer un petit peu plus si vous le souhaitez pour mieux visualiser. Alors ce qu'on peut voir, c'est que en vert, on a les limites communales. Et on voit par exemple la commune de Tailly, qui a une petite partie tout en haut qui a été couverte par la montée en débit de Saint-Christophe-des-Bois. Et que la fibre optique concernera plus donc le reste de la commune, avec un petit bout de la commune qui sera peut-être pas, qui sera fait qu'en phase 3. Et cette zone-là débordera aussi un peu sur la commune d'à côté. Donc on voit que le zonage ne suit pas forcément la limite communale pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Voilà. Alors bien évidemment, toutes ces cartes-là sont à votre disposition, ont été fournies au service et pourront vous être retransmises. Je vais maintenant revenir sur la carte du sud. J'ai presque fini. Voilà, le sud. Et juste pour terminer, un point financier tout de même pour dire l'impact. Donc sur la phase 1, il y a eu des montées en débit, mais elles ont été financées dans le cadre des contrats de pays-région via l'enveloppe numérique donc de la région. Donc il n'y a pas eu de participation intercommunale. Et finalement, sur la tranche 2, donc il y a environ 1 200 000 € de financement public appelé pour l'intercommunalité. La phase 2, ça représente environ un peu moins de 5 000 000 €, 4,7 millions. Et le reste, un peu plus de 7 millions d'euros. Et voilà.
Merci beaucoup de cette synthèse. Est-ce qu'il y a une question ? Oui ?
Merci beaucoup. J'ai une question un peu particulière. Depuis quelques années, les programmes scolaires ont changé. Et notamment les programmes scolaires de nos collégiens, qui sont, pour ce qui les concerne, évalués sur leur capacité à apprendre, à comprendre, à créer via le net. Vous me voyez venir. Le conseil départemental, pour permettre ces apprentissages nouveaux, dote tous les collèges d'Ille-et-Vilaine d'ordinateurs portables, de tablettes, etc. Bien. On les imagine donc, allez, 5 classes de 25 à 30 élèves se connectant en même temps, un peu plus de 100 élèves se connectant, et rien ne fonctionne. Forcément. Ou très peu, enfin bon, ça n'avance pas, donc ils ferment leur truc. Le programme n'est pas vu au niveau Internet et des compréhensions, comment dirais-je, de l'ordre des connexions. Enfin bref, je ne vais pas entrer dans le détail. Quand on arrive en conseil d'administration de ces collèges, on nous dit alors quand ? Et là, on répond droit dans les yeux, écoutez, étant donné que ce sont les locaux qui vont d'abord être approvisionnés, on espère 2023, mais comme vous n'êtes pas prioritaire, peut-être 2030. C'est quelque chose qui n'est pas tout à fait entendable. Voilà, ça, c'était une première chose. Est-ce que vous pouvez apporter une réponse à cela ? Deuxième question, juste pour que tout le monde comprenne bien, puisque vous avez fait des graphiques très intéressants avec 3 mégas, 8 mégas, 30 mégas. Est-ce que vous pouvez expliquer très concrètement, juste en avec un simple exemple, ce que c'est que 3 mégas, ce que c'est que 8 mégas, ce que c'est que 30 mégas pour le commun des mortels. Merci.
J'étais un peu vite. Alors, sur les collèges, je ne parlerai pas à la place du département, ce n'est pas mon rôle. Je sais juste qu'au-delà de la participation départementale dans le programme de déploiement, qui inclut tous les locaux, c'est-à-dire que quand on va sur une commune déployée, tous les bâtiments seront rendus raccordables, même si c'est un collège, une entreprise, une PME, une association. Voilà. Donc si le collège se situe sur une des zones soit en cours de déploiement, soit déployé entre 2018 et 2023, il sera rendu raccordable dans les mêmes délais que tout le quartier, je dirais. Voilà. Alors ce que je sais aussi, c'est que le département souhaite aller plus vite pour les collèges qui ne seraient pas dans ces zones-là. On a été mandaté, Mégalis, assez récemment par la région et les 4 départements pour réfléchir à comment connecter les collèges et les lycées en avance de phase, notamment pour tous ceux qui seraient dans les zones de la phase 3, si vous voulez. Ça, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. Ça demande des moyens financiers assez importants. Et donc, on réfléchit aujourd'hui sur comment on va programmer dans le temps le raccordement de ces établissements au fur et à mesure. Nous, on est constructeurs. Il restera malgré tout pour la région ou les départements à s'occuper de la gestion télécom, c'est-à-dire des abonnements pour ces établissements. Parfois, pour un collège ou pour une entreprise, il y a des solutions déjà existantes de l'offre privée. Je pense à du satellite, des réseaux hertziens, etc., que peuvent proposer des opérateurs télécom régionaux, qui peuvent peut-être permettre d'attendre la fibre optique, ce qui n'est pas toujours possible pour un citoyen qui n'a pas beaucoup de moyens à mettre de manière supplémentaire dans le coût télécom. Le deuxième point concernant le 3, 8 et 30 mégas, alors comme je le disais, la Commission européenne dit qu'à partir de 30 mégas, c'est du très haut débit. Aujourd'hui, pour avoir une connexion Internet et lire des mails, il faut au moins 2-3 mégas. Voilà. 2-3 mégas, vous avez une connexion Internet standard et vous pouvez aller sur Internet, aller sur un site de commerce en ligne et puis gérer votre messagerie. Si vous voulez avoir en plus deux appareils connectés, par exemple des tablettes, des choses comme ça, plus un flux télé, puisqu'il y a aussi des gens qui maintenant regardent la télé via la connexion Internet, là, le 3 mégas ne suffit pas, ne permet pas de faire ça. Donc, il faudra plutôt aller sur du 8 mégas. 8 mégas, vous pouvez avoir deux flux, un Internet et un télé. Après, 30 mégas, aujourd'hui, quelqu'un qui prend l'abonnement fibre optique qui a 100 ou 200 mégas, il ne va pas forcément voir la différence tout de suite, sauf que ça va permettre beaucoup plus d'usages simultanés, beaucoup plus de consommation de contenu qui aura été rendu quasiment impossible ou alors quitte à attendre 24 heures pour pouvoir télécharger un film, par exemple. Et ça apporte surtout beaucoup plus de confort et la possibilité, dans un foyer qui a de plus en plus d'appareils connectés. Je vais vous prendre un exemple. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont des smartphones. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils le connectent en Wi-Fi à la borne, à la box qu'ils ont au domicile. Ça consomme de la bande passante sur l'abonnement Internet. Donc si vous avez 3-4 personnes dans le foyer qui ont un téléphone, plus une tablette, plus un ordinateur, plus la télé, là, 30 mégas, ça va même devenir un peu insuffisant. Alors, je ne vous parle même pas de gens qui travaillent à domicile, qui doivent envoyer des plans, des choses comme ça, où là, la fibre optique leur permettra d'avoir un usage non seulement beaucoup plus confortable, mais qui permettra d'évoluer dans le temps. Je termine avec ça. Vous allez sur le site d'Orange, je vais prendre l'Orange, allez, c'est pas grave, c'est le premier opérateur à venir sur notre réseau. Il y a 3 abonnements possibles sur la fibre aujourd'hui chez Orange. C'est le premier, il est à 100 mégas, le deuxième à 200 mégas et le troisième à 500 mégas. Aujourd'hui, on peut même aller jusqu'à 1 giga, c'est-à-dire 1000 mégas. Donc, on parlait tout à l'heure de 30 mégas. Vous voyez, on peut même faire 30 fois plus d'ores et déjà. Et il suffira de changer les équipements au bout pour aller encore plus vite sans changer le câble qui, lui, est là pour des dizaines d'années.
Merci. Que répondre à... Oui, monsieur Huttard. Et que répondre pendant ce temps-là à ceux qui vous disent « Mais le gouvernement d'aujourd'hui et d'hier nous avait dit que tout le monde sera raccordé au débit en 2022 ».
Oui. Alors justement, ça revient un petit peu à la question d'avant, c'est-à-dire c'est quoi le haut débit ? Est-ce que c'est du 3 mégas ? À ce moment-là, comme on voyait sur les statistiques, 95% des gens, etc., bon, à ce moment-là, l'effort est peut-être pas si loin que ça. Surtout que dans le communiqué de presse du gouvernement d'hier, ils n'excluent pas des technologies genre satellite. Si on dit satellite, aujourd'hui, tout le monde peut avoir un abonnement satellite à 10 mégas. Sauf que c'est un petit peu plus cher, il y a le coût de l'installation de la parabole, etc. Donc on voit bien que la notion de haut débit, elle est... Voilà. Après, le très haut débit, c'est pareil, c'est quelle définition on entend. Moi, je préfère retenir la définition de la Commission européenne qui dit qu'il nous faut une société, elle appelle Gigabit Society, la société du gigabit, et ça, il n'y a que la fibre optique qui nous permet d'atteindre ça. Et alors, elle fixe un objectif à 2025, ce qui me paraît très ambitieux. Et je pense qu'à 2025, on aura déjà bien avancé et on apportera au moins du très haut débit, soit en fibre optique, soit déjà existant avec les réseaux filaires cuivre, à une grande majorité de la population, ce qui permettra quand même d'avoir une grande avancée sur l'ensemble du territoire et surtout en priorité sur les zones rurales, là où il y a le plus de besoins aujourd'hui et là où aussi des gens ont des enfants qui vont au collège, des gens veulent faire du télétravail, etc.
Alors, comme élément de réflexion pour les conseillers départementaux qui sont dans la salle, la région a la même problématique pour ces lycées que celle qui a été évoquée pour les collèges. Comment donner accès dès maintenant aux élèves à du très haut débit? Et donc ce que nous avons utilisé comme solution en Bretagne, ça a été des solutions qui existent aujourd'hui pour les professionnels, en utilisant les réseaux existants ou avec des constructions que peuvent réaliser les opérateurs, des abonnements très haut débit qui sont assez onéreux. Ça peut coûter plusieurs centaines d'euros par mois la connexion. Donc la région Bretagne, pour ses 116 établissements publics, a mis en place un appel d'offres pour avoir une acquisition groupée de connexions au débit. Ça a permis de baisser le coût de l'abonnement unitaire pour les établissements. Et puis, il y a un engagement aussi qui est de facturer au maximum 120 euros par mois l'abonnement aux établissements, le différentiel étant pris en charge par la région. Et ça a permis donc à tous les établissements, à la rentrée, d'avoir un débit confortable. C'est le cas, par exemple, du lycée La Champagne à Vitré, qui est très content de son débit. Et d'ailleurs, le conseil d'administration, vous citiez ceux des collèges qui peuvent être un peu compliqués. Celui de La Champagne, hier soir, s'est très bien passé.
Merci. Pas d'autres observations? Oui, Pierre, on va accélérer un tout petit peu parce que
tout simplement,
qu'à 11h, on est terminé.
Oui, simplement une question technique. Quand on met la fibre qui arrive au centre de Bourg, où on va être à 30 mégas, on sait qu'à 3, 4, 5 km, on va se retrouver avec 5, 6 mégas. Si on augmente au centre, est-ce que ça augmente aussi la distance? Imaginons par exemple un scénario à 60 mégas, est-ce qu'on l'a, au lieu de 5, 6, on sera à 10 ou 12?
Alors le principe, en fait, c'est que dans le central téléphonique, on change l'équipement. C'est les opérateurs changent l'équipement, ils mettent des choses plus modernes, ils appellent ça du VDSL2, des choses comme ça. Et donc effectivement, pour des gens qui sont à moins de 800 mètres du central, ils peuvent même avoir plus de 30, parfois 50 mégas, parfois un peu plus. C'est des conditions. Après, ça dépend beaucoup de sa ligne téléphonique. Peut y avoir par contre, dès qu'on sort du centre-bourg et au-delà de 5 mégas, en fait, l'effet du VDSL, il est nul au-delà d'un kilomètre. On retombe sur de la DSL classique. C'est un problème d'atténuation sur le réseau cuivre. Donc au-delà d'un kilomètre, même si on mettait 100 ou 200 mégas, ce qui n'est pas possible, dans le centre-bourg, avec le cuivre, il y aura toujours cette atténuation. Et au bout d'un kilomètre, pouf, on retombe sur les débits actuels que tout le monde a.
Oui, ma question est assez simple. C'est je vois que les zones qui sont en jaune seront alimentées en haut débit, très haut débit, assez tardivement. Pourquoi n'est-il pas possible de faire en sorte que, à minima, les bourgs aient une montée en puissance de façon à ce qu'un câble optique, un câble de fibre optique arrive du central voisin jusqu'au centre de la commune et permettrait au moins une montée en puissance sur la commune proche. Et permettrait d'attendre, au lieu que là, on va encore attendre davantage.
Alors, généralement, les centres-bourgs, ce n'est pas le cas partout, mais ceux qui ont un central téléphonique n'ont pas de problème de débit. C'est-à-dire que, généralement, ils ont de 20 à 30 mégas.
Ça existe. Les centraux téléphoniques ne sont pas souvent au cœur des petites communes, monsieur.
Des toutes petites communes, non, je suis d'accord avec vous. Mais bon, il y a quand même plus d'un millier en Bretagne, donc il y a quand même pas autant de centraux téléphoniques que de communes, mais pas loin. Mais pour ceux, effectivement... Alors, le problème, ce que vous parlez là, en fait, c'est une solution dite de montée en débit. La difficulté sur la montée en débit, c'est que ça coûte assez cher et que c'est un investissement supplémentaire puisqu'il faudra tout de même passer en fibre optique. Donc ça veut dire que ça rajoute à la facture. D'autre part, on ne peut pas le faire partout. C'est-à-dire qu'il y a des... c'est très lié à la configuration du réseau téléphonique. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être, sur votre commune, je ne la connais pas, je suis désolé, mais peut-être que certains habitants sont raccordés à un central qui est au nord, d'autres au sud, d'autres à l'est. Donc du coup, il faudrait peut-être plus faire beaucoup de montée en débit, ce qui pourrait être extrêmement coûteux pour un effet qui ne sera pas complètement satisfaisant.
Je ne parle que du bourg, monsieur.
Oui, mais ça dépend de la topologie du réseau téléphonique. C'est pas faisable partout. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a des opérations qui ont été faites, hein, c'est ce qu'on voit en rose sur la carte. Elles ont été faites avec parcimonie, là on était sûr que ça marchait le mieux, et où ça a été le plus efficace, le plus efficient en termes d'investissement par rapport à l'effet que ça allait apporter. Si ça n'a pas été fait partout, c'est que ça ne pouvait pas fonctionner partout. Après, aujourd'hui, ce que pousse le gouvernement, certains opérateurs, c'est des solutions alternatives. Ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure, ça sera probablement aussi un sujet dans les prochaines années, c'est dire comment on informe les citoyens sur les solutions existantes. Alors, il y a des solutions satellitaires, j'en ai parlé un petit peu. Ça progresse beaucoup, il y a beaucoup d'offres sur ce sujet-là. Les opérateurs déploient massivement aussi des réseaux de téléphonie mobile, qu'on appelle la 4G, qui permettent d'apporter des débits assez importants. Et ils sont en train de les commercialiser pour faire des offres au domicile, c'est-à-dire pour que des gens puissent se connecter sur Internet via le réseau mobile et non pas via le réseau filaire. Encore faut-il que la couverture 4G soit bonne. Hein. Et là, je ne sais pas si vous avez, enfin, si vous suivez la presse, mais en tout cas, le gouvernement incite beaucoup les opérateurs à accélérer leur déploiement de téléphonie mobile, ce qui pourra peut-être vous apporter une solution dans l'attente d'avoir la fibre optique.
Juste un petit rappel, vous rappelez qu'effectivement, on a, nous, délibéré pour une aide aux satellites. Vous savez qu'on permet de financer 50% de l'installation à concurrence de 300 euros et vous donner le nombre de demandes qui ont été, en fait, on a eu 21 demandes et 17 qui ont été auxquelles on a pu répondre favorablement parce qu'ils rentraient dans les critères qui étaient les nôtres. Donc, en fait, relativement peu, voire même très peu.
17, c'est pas mal pour un début.
Oui. Mais on avait ouvert jusqu'à une quarantaine, donc on a encore une marge de manœuvre.
Ouais. Et on a combien de mégabits là pour...
Une dizaine, c'est ce que disait M. Renaud.
Non, mais c'est une solution pour ceux qui se sentiraient totalement isolé. Merci. Ben, je vois que ça a entraîné un débat. Merci vraiment à Mégalis et à vous-même.